Cap Sport, la rediff.
Du futsal et de la moto aujourd'hui dans Cap Sport. Ballon rond et bécane donc, mais pas question de tourner en rond. Le futsal est, comme son nom l'indique, la forme officielle de football en salle. Un club neuchâtelois et plus précisément Chaudfony s'illustre dans le championnat de Suisse. RCD Fidèle Futsal va participer dès dimanche à la finale des playoffs pour le titre. L'occasion de mettre en lumière cette discipline dont la pratique demeure confidentielle, en tout cas en regard au football traditionnel. On en parle avec nos invités, David Diongo, fondateur et joueur du RCD Fidèle Futsal, et Jackie Borroua, président de l'association jurassienne de football. En seconde partie d'émission, nous nous intéresserons à l'ouverture de la saison 2018 de motocyclisme au Qatar, et pour cause, Tom Lutti s'élancera pour la première fois de sa carrière sur la grille de départ de la catégorie reine en moto Grand Prix. Tous les amoureux de grosses cylindrées se réjouissent de voir le Bernois à l'œuvre, et parmi eux, un ancien pilote de Grand Prix, Philippe Coulon, il est aussi notre invité. Bonsoir et bienvenue dans Cap Sport, votre rendez-vous sportif de la fin de semaine. Marcel Neuenschwander, bonsoir.
Bonsoir.
Alors avant de nous intéresser plus en détail à l'équipe de futsal de RCD et Fidèle Futsal, on se penche sur ce sport qui, dans sa forme officielle en tout cas, n'attire pas énormément de pratiquants.
Non, c'est vrai, mais il convient en effet de ne pas confondre le futsal avec le football en salle tel qu'il est pratiqué lors de nombreux tournois durant la mauvaise saison. Lors de ces tournois indoors, chaque organisateur adapte ses règles, souvent en fonction des infrastructures à disposition. Écoutez à ce propos les précisions du président de l'association jurassienne de football, Jackie Borroua.
Absolument, le futsal, si on veut vraiment l'impliquer dans sa totalité, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter, qui vont du ballon au nombre de joueurs, à la dimension du terrain, au but, un ensemble de règles, et qu'on ne peut pas appliquer systématiquement dans tous les tournois qui sont organisés, par les clubs de la JF.
C'est une question aussi d'infrastructure à disposition, le problème du futsal ?
Absolument, absolument. On le voit à l'heure actuelle, de nombreux clubs qui essayent de faire justement des tournois. Je voyais le cas du FC Porrentruy qui est obligé de se décentraliser pour faire un tournoi junior sur Bure. On constate que dans les écoles, le fait de passer de 2 heures à 3 heures de gym par semaine est un casse-tête pratiquement insoluble. Donc on n'a pas assez de halles. Donc vous imaginez bien que si on n'arrive pas à faire 3 heures de gym aux jeunes, ça va devenir également compliqué d'organiser en plus un futsal pour les sociétés qui souhaitent le faire.
C'est Jackie Borroua, donc au téléphone de Noémie. Et Marcel, on l'a bien compris, le futsal, c'est vraiment quelque chose de chapeauté par la FIFA avec des règles bien codifiées.
Et oui, le futsal ne laisse pas place à l'improvisation. C'est un sport à part entière qui débouche sur des compétitions officielles et aussi une Coupe du Monde au palmarès de laquelle figurent d'ailleurs 3 pays seulement, le Brésil et oui encore l'Argentine et l'Espagne. Le futsal se pratique sur les dimensions d'un terrain et avec des buts de handball à 5 contre 5, 4 joueurs de champ et un gardien. Les touches se font au pied. En théorie, il pourrait aussi se tenir à l'extérieur d'ailleurs, ce qui était le cas au moment de sa création dans les années 30 en Amérique latine bien évidemment.
Mais en Suisse, c'est différent. Marcel, le futsal est vite devenu une manière de jouer du football à l'intérieur.
C'est sûr, c'est clair, c'est ce qui en fait d'ailleurs son intérêt. Pour le reste, on se dit qu'il est peut-être parfois plus agréable de pratiquer le football sur un grand terrain ouvert. Alors je ne sais pas si David Guionco, qui est fondateur et joueur du RCD Fidèle Futsal, est d'accord avec nous. À l'origine, vraiment la pratique du futsal du côté de la Chaux-de-Fonds, David Guionco, eh bien c'était vraiment pour pouvoir taper le ballon durant la mauvaise saison. Bonjour, bonsoir tout d'abord.
Bonsoir.
À l'origine, vraiment, on avait envie vraiment de taper dans le ballon en salle. C'était tout simplement pour se faire plaisir parce que dehors, c'était impossible.
Alors c'est juste, je pense qu'on a commencé cette aventure entre potes. C'était une pratique qu'on faisait surtout l'hiver, parce que c'est clair que pendant l'année on jouait tous au foot à l'extérieur. Donc c'était une bonne manière de continuer le football pendant cette période hivernale.
Mais comment avez-vous pris goût au futsal, abandonné aussi un petit peu quand même le football à l'extérieur?
Alors, en fait, en 2007, on a décidé avec Patrick Azevedo et Elio da Silva de s'inscrire dans le championnat suisse de futsal, parce qu'il a été créé une année avant. Et depuis 2007, on a passé 10 ans magnifiques à pratiquer ce sport. Et on continue.
David Yonko, à l'origine, c'était vraiment une bande de copains, une bande de potes du côté de la Chaux-de-Fonds, avec Deportivo.
Oui, c'est vrai. Au départ, on a créé une équipe entre potes. Et puis, plus les années sont passées, et plus le niveau a augmenté aussi. Et plus il a fallu recruter des joueurs d'expérience pour pouvoir amener un plus. Et c'est ce qu'on a fait.
Et pourquoi s'être distancié du football traditionnel, quand même en plein air, sur grand terrain, ça paraît, on va dire, plus agréable, plus attractif, non ? Alors, faites-vous le défenseur du futsal.
Non, alors écoutez, je pense qu'il faut pas comparer les deux sports. Les deux sports sont magnifiques. Après, je pensais aussi le joueur de futsal a peut-être des qualités différentes que des joueurs du foot à 11. Donc, c'est deux sports qui se ressemblent mais qui sont quand même différents.
Voilà, deux sports qui se différencient réellement actuellement. Qui plus est, on a dit le futsal, c'est sur un plus petit terrain, les buts sont plus petits. Quelles sont les qualités qu'on devrait mettre en avant ? Il y a des qualités plus techniques ou au contraire plus physiques ? On se pose un petit peu la question.
Alors, je pense que le futsal en général est très spectaculaire. La transition attaque-défense est beaucoup plus rapide que sur un foot sur un terrain de foot à 11. Donc la technique est très importante parce que c'est clair que le terrain est plus petit, donc il faut maîtriser la balle. C'est plus important de maîtriser la balle sur une petite surface que sur une grande surface. Donc oui, bien sûr, il faut de la technique, il faut aussi au niveau tactique être intelligent, parce que on est attaquant, on est défenseur, et la transition se fait tellement vite que voilà, on n'a pas vraiment le temps de réfléchir.
On a l'impression, vous dites, un moins de joueurs, plus petit terrain. Est-ce que un seul joueur peut peut-être plus faire la différence à lui tout seul que ce n'est le cas dans le football à 11?
Alors, le futsal est quand même un sport d'équipe. Alors bien sûr, comme dans tous les sports collectifs, un joueur peut effectivement faire la différence sur une action, ou même sur un match, bien sûr. Mais je pense que si on n'est pas soudé, si les cinq joueurs sur le terrain ne sont pas coordonnés, même si on a un joueur magnifique, ça suffira pas. Et encore moins au niveau auquel on joue, quoi. Ça c'est.
Et l'importance du gardien, est-ce qu'elle est encore plus prépondérante que dans le football traditionnel? On connaît l'affaire en hockey sur glace, hein, l'importance du gardien. Est-ce que c'est aussi le cas en futsal parce que les buts sont plus petits?
Alors tout à fait, le gardien c'est un joueur de plus. Il y a des règles qui empêchent de pouvoir jouer avec lui au pied. Donc une fois que le gardien a donné la balle à un joueur de son équipe, on peut plus lui donner la balle s'il est encore dans son camp. Mais au niveau défensif, il est toujours concerné. C'est un défenseur de plus en fait. C'est très très important. Le gardien est très très important au futsal. Ça c'est sûr.
Ce n'est pas Monsieur 50% quand même comme on hockey sur glace.
Ben écoutez, moi je pense que ça se rapproche pas mal du hockey sur glace. Le gardien est très 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 important.
Alors, on l'a dit, le nombre d'équipes dans la région, comment ça se vit? Parce qu'il y a cette équipe, la vôtre, du côté de la Chaux-de-Fonds, mais dans le reste de la région, notamment dans le canton de Neuchâtel?
Alors, sur Neuchâtel, on a trois équipes. Donc la plus ancienne, c'est le FC Peseux. Ensuite, on a démarré l'aventure juste après, à l'époque. Et puis, il y a aussi le FC La Chaux-de-Fonds qui évolue. Donc, les deux clubs que je viens de citer évoluent en Ligue Nationale.
Et pourquoi, pour vous, il n'y a que trois clubs, on va dire, dans le canton de Neuchâtel, alors qu'il y a beaucoup plus de clubs de football traditionnel? C'est un sport qui est encore en développement, selon vous?
Bien sûr, ce sport est en développement depuis 10 ans, et je pense qu'il faudra encore plusieurs années pour atteindre le niveau de nos voisins. Mais je pense que effectivement, c'est difficile de faire beaucoup d'équipes dans un canton aussi petit, parce que au final, les joueurs intéressés peut-être. C'est difficile de faire plus d'équipes, à mon avis, sur Neuchâtel. Après, pourquoi pas élargir sur le Jura, je pense que ce serait intéressant qu'une équipe, une fois jurassienne, se lance dans l'aventure. Ça pourrait être intéressant pour ces joueurs-là.
Alors justement, il n'y a aucune équipe de futsal jurassienne en ce moment. Problème d'infrastructure. On va justement retrouver à ce propos Jacky Borua, le président de l'association jurassienne de football. Il explique ce qui pourrait éventuellement attirer un joueur à se tourner vers ce sport. C'est le coup de fil de Noémie.
Souvent, les joueurs qui passent au futsal
le font par amour, je dirais, de la technique pure, puisque les équipes qui participent, je dirais, aux trois divisions suisses sont surtout des techniciens qui aiment manier le ballon, qui aiment toucher le ballon, et bien souvent on retrouve ces équipes, je dirais, dans les régions périphériques des grandes villes. Peut-être que ce sont aussi des joueurs qui ne sont peut-être pas mis en valeur comme ils le souhaiteraient au travers du football à 11 et qui souhaitent peut-être le faire dans des conditions un tout petit peu plus, je dirais, restreintes, et puis montrer leur technique en salle. C'est un élément, il y en a peut-être d'autres. C'est en salle, c'est couvert. Au niveau de la météo, il y a moins de perturbations.
Alors, en Suisse, on joue où au futsal ?
D'après ce qu'on sait, puisqu'on a eu l'occasion de participer à l'entraînement, c'est assez développé, je dirais, sur Vaud, le canton de Vaud, un petit peu Neuchâtel, un petit peu Genève, et puis surtout Berne, mais la ville de Berne et les alentours, mais pas au-delà, quoi. Donc c'est vrai que même en Suisse allemande, Grison ou du côté de Zurich, je crois qu'il y a une équipe. Et pour l'instant, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas prioritaire dans les activités de la JF.
Jacky Bourua, donc le président de l'association jurassienne de football, qui nous parlait futsal. Et nous sommes toujours en compagnie dans Capsport de David Dianco, président et fondateur du... Je vais me redonner le nom du club exactement.
Maintenant, c'est RCD Fidèle Futsal.
RCD Fidèle Futsal, c'est voilà. David Dianco, votre équipe est devenue ambitieuse au fil des ans, mais qui la compose désormais, ce n'est plus seulement une bande de potes. Et de ce côté-là, ça a évolué.
C'est juste depuis l'année dernière, je dirais que ça a évolué. On s'est fixé des objectifs. L'objectif était clair. L'année passée, c'était d'accéder à la Swiss Futsal Premier League. Et pour ce faire, on a été obligé de compléter cette bande de potes, comme vous dites, avec des joueurs d'expérience, des joueurs espagnols, brésiliens, italiens.
Mais comment attire-t-on des joueurs espagnols, brésiliens, italiens pour pratiquer le football, le futsal en Suisse ? Manifestement, ça ne doit pas être très lucratif.
Alors, certains joueurs brésiliens viennent chaque année pendant la période hivernale pour renforcer les équipes en Suisse. C'est le cas notamment d'un de nos joueurs, Maurizio Sia. C'était le cas à l'époque aussi de Clayton l'année dernière. Pour les autres, notre entraîneur Pablo Sanchez ou Thiago Leonaldi ou Dulcis, enfin tous les joueurs qui composent l'équipe actuellement, c'est des situations de travail en fait qui viennent chercher. Donc c'est comme ça qu'on arrive à les attirer. Et puis voilà, grâce à ça,
cette équipe, grâce à ça et la belle allure, puisqu'elle va participer à la finale du championnat de Suisse, premier match, c'est pour quand?
Alors juste un rappel, la finale se joue sur trois matchs. Le premier match aura lieu dimanche à Saint-Pré contre le FC Silva, qui a fini premier de la saison régulière. Ensuite, on recevra le FC Silva la semaine suivante, le samedi à 19h30 au pavillon des sports. Donc si les gens sont intéressés et ont envie de découvrir ce sport, on les invite à venir partager ce moment avec nous. Et puis si troisième match il y a, on retournera à Saint-Pré la semaine d'après.
Quelles sont vos chances de l'emporter ? C'est la question qu'on aime bien me poser, mais il n'y a jamais de réponse précise. Hein, parce qu'évidemment, vous êtes sûr que vous allez l'emporter.
Non, alors, sûr, on ne peut jamais être sûr. Non, au contraire, ce serait un manque de respect pour l'équipe adverse.
C'est solide, l'équipe.
Qui est très solide. Maintenant, c'est clair que je pense que c'est du 50-50. On est deux belles équipes qui pratiquent bien le futsal. Les deux équipes ont des joueurs de qualité. Je pense qu'on se vaut. Après, il y a tellement de paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte que c'est difficile de donner un pronostic. Mais j'espère qu'on va le remporter, ça c'est sûr.
C'est ce qu'on vous souhaite, David Dianco. Merci, évidemment. Nous vous souhaitons de soulever ce trophée de champion national de futsal. Ça serait une première pour un club du canton, pour un club même de l'arc jurassien. Bonne fin de soirée, au revoir.
Merci pareillement, au revoir.
Capsport jusqu'à 19h.
Et sans transition dans Capsport, on va parler maintenant du futsal à la moto. La saison mondiale démarre ce week-end par le Grand Prix du Qatar. Tom Luthier va faire ses premières armes dans la catégorie reine en moto Grand Prix. Et l'événement est de taille pour le sport motorisé helvétique. Ce n'est pas Philippe Coulon qui nous dirait le contraire.
Bonsoir tout le monde.
Philippe Coulon, bonsoir.
Bonsoir.
Alors je ne sais pas s'il a encore besoin de vous présenter, ancien pilote moto. Philippe Coulon, qu'est-ce que vous inspire la présence d'un pilote suisse et tout particulièrement de Tom Luthier en moto Grand Prix dans la catégorie reine ?
Ah bien, c'est un Tom, c'est un petit parmi les grands maintenant. C'est en MotoGP, c'est vraiment là, c'est un petit peu la comparaison. Le but d'arriver en MotoGP, c'est un petit peu la Formule 1. C'est un petit peu ça, mais avec des motos très spéciales. Et ça fait très très plaisir pour Tom d'arriver dans la catégorie suprême.
Voilà, Tom Lüthi qui a été champion du monde des 125 cm3 en 2005, deux fois deuxième en Moto 2 lors des deux précédentes saisons. Pour Tom Lüthi, tout de même à 31 ans, on se dit que c'est le bon moment de faire le grand saut dans cette catégorie que vous qualifiez de Formule 1 de la moto.
C'est le dernier moment pour faire le grand saut. Disons, il y a l'âge, il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés en MotoGP, qui ont trouvé les gros contrats, parce que c'est vraiment, ça a vraiment un coût énorme. Et c'est le dernier moment, 31 ans, et... On a l'exemple, c'est Valentino Rossi qui va aller sur les 39 ans et qui a re-signé pour 2 ans avec Yamaha. Mais lui, c'est l'expérience, il roule depuis de nombreuses années et ça, c'est l'expérience qui compte. Après, pour Tom, je pense que ça va être dur parce qu'il faut s'habituer à la MotoGP. Il y a un changement énorme par rapport à la Moto2 au niveau de la puissance. Et cette puissance, elle est gérée par l'électronique. J'ai pu essayer il y a quelques années quand même en MotoGP une 1000, l'ancienne Loris Capirossi, c'était une Ducati. J'ai pu essayer à l'époque où il y avait des 800, c'est entre 2006 et 2012 il me semble, il y avait des 800. J'ai pu essayer ces MotoGP et c'est l'électronique. Vous ne voyez plus de motos qui font des wheelings, donc un wheeling c'est-à-dire qui partent sur leur roue arrière à l'accélération, c'est ce qu'on avait nous avec les anciennes motos. Maintenant les nouvelles motos, cette électronique gère d'apporter la puissance maximum pour aller à la vitesse maximum. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Vous êtes incliné avec la moto, ils prennent des angles maintenant en dessus 60 degrés, c'est vraiment, on a les oreilles par terre. Nous aussi à l'époque on avait les oreilles par terre, mais on continuait pas plus loin quoi. Mais là c'est vraiment des angles incroyables et c'est vraiment quand on redresse la moto qu'elle accélère toute seule, on met plein gaz vraiment dans le virage quand on est incliné, et c'est lorsqu'on redresse la moto, elle accélère, c'est géré avec l'électronique.
Philippe Coulon, on est vraiment un néophyte en matière de moto, on a le sentiment que c'est presque du pilotage automatique, ce n'est pas tout à fait ça, c'est pas à portée de tout le monde. Hein,
disons qu'il y a pilotage automatique, il faut quand même avoir beaucoup d'expérience et un gros cœur, parce que gérer, on annonce dans la presse les motos à 240 chevaux, en réalité chez Ducati, ils sont plus près de 280 que de 240.
Et en termes de vitesse, la vitesse de pointe, par exemple, de ces engins,
Grand Prix d'Italie, au Mugello, ils atteignent donc en vraiment réel. C'est toujours nos radars fonctionnent toujours pour ça, mais c'est à 358 que sont chronométrés les Ducati.
Et ça, par rapport à l'ancienne catégorie de Tom Lüthi, à quel point il y a une différence en termes de vitesse?
Mais disons que les Moto 2 atteignent quand même 300 sur certains circuits grâce au profilage. Faut pas oublier que Moto 2, ce sont des moteurs de moto de série de Honda qui sont modifiés, qui sont préparés en Espagne pour avoir un nombre de chevaux je crois qu'ils sont à 130, 132 chevaux, mais qui les rend quand même fiables, parce que ce sont des moteurs qui sont plombés et ils ont droit à faire 3 ou 4 courses avec avant de changer de moteur. Donc ça doit être solide, mais ils atteignent quand même des vitesses c'est l'accélération qui change.
Philippe Coulon, 19 Grands Prix sont au programme du championnat du monde cette saison en 2018. Tom Lüthi, justement, on l'a dit, va arriver dans cette nouvelle catégorie. Il aura besoin d'un petit temps d'adaptation, mais justement, aura-t-il le temps de s'adapter ou est-ce qu'il aura directement une pression sur ses épaules, une pression du résultat?
Disons qu'il y a une grande pression parce qu'on arrive là, c'est pas la saison du championnat suisse. Ce sont des motos qui valent très très cher. Déjà, une Honda comme Tom vaut plus de 2 millions. De francs suisses, hein. C'est pas délire, hein. mais c'est de la folie. Il y a beaucoup d'éléments, des matériaux très très chers, du carbone, du titane, tout ça, et la recherche qui fait que, et en plus ces motos sont construites en très très petite série, donc ce qui fait que tout est beaucoup plus cher.
Mais Thomas Lüthi, justement, il va se lancer dans cette catégorie de moto Grand Prix. Il lui faut un temps d'adaptation, c'est nécessaire, non?
Alors, certes, pour certains pilotes, non. Non, je pense que quand on sait piloter, disons qu'à mon époque, je passais de la 125 à la 500, à la 750, sans grande différence. Mais y a la preuve, un Zarco, deux fois champion du monde en Moto 2, arrive en Moto GP l'année dernière, et vraiment, il est devant au premier Grand Prix au Qatar, il dépasse tout le monde, c'est bon, après, il finit dans le sable. c'est vraiment très impressionnant la façon dont s'est adapté Zarco. Par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est que tous les pilotes jeunes, maintenant, s'entraînent énormément à la glisse. Un Valentino Rossi, tous les jours, il fait de la moto. Luca Cadalora, qui est un petit peu son manager, que je connais très bien, il m'a dit, mais il me casse les pieds parce qu'il me téléphone le matin, il fait de la glisse, et l'après-midi, il téléphone à Misano, si le circuit est libre, on roule avec les mains, les Yamaha, disons, modifiés pour le circuit, on roule de 2 heures de temps, et là, il faut faire des chronos, tout. Valé, il roule toute la journée, presque tous les jours. Un Zarco aussi roule presque tous les jours. Il a une école pour les jeunes, et lui, c'est sur les circuits de karting en France, il va pas très très loin, faut pas que ça coûte cher, parce qu'ils n'avaient pas de pognon avant, maintenant ils commencent à en toucher, mais ils s'entraînaient sur les circuits de karting avec une moto d'occasion, une Yamaha 600 de route avec des vieux pneus, et c'est la glisse et c'est les freinages, et c'est, faut rouler, faut pratiquer, et ça c'est peut-être un petit peu le défaut à Tom de ne pas assez s'entraîner dans ce sens-là. Et Tom, toutes les saisons, disons, il a eu son titre de champion du monde 125, heureusement que c'était sur chute au Japon, je crois, le Grand Prix avait été arrêté un tour avant sa chute, donc il est encore dans les points, mais il manque un petit peu à Tom cette faim, cette rage contre tous les pilotes. Maintenant, les pilotes italiens, on les voit, vous voyez les courses Moto 3, Moto 2, vraiment, c'est tous des saignants, ils ont tous faim, c'est l'attaque continue. Et Tom est peut-être un petit peu trop, je ne vais pas dire endormi, c'est loin de là, mais un manque d'attaque à certains moments, au début surtout. Et ça, c'était le problème de son team manager, je le voyais rager des fois, parce que Tom, il partait bien, puis après il était 8e, puis en fin de course, il remarquait qu'il était 8e, qu'il allait se faire gronder, donc là, il remettait du gaz et il remontait 2 places. C'est dès le début qu'il faut attaquer. Ça coûte, disons, maintenant, ce sont tous des professionnels, et il faut être prêt dès le début, il n'y a pas de temps d'apprentissage, c'est faut être là.
Mais quel est son potentiel en Moto Grand Prix ?
J'espère qu'il soit dans les points, mais là, deuxième essai, aujourd'hui, il est 19e, il y a un point au 15e. Morbidelli, son compagnon de team, c'est son plus grand concurrent, hein, parce que Morbidelli a un point devant, mais Morbidelli aux essais d'avant avait été 5-10e devant Tom. Et faut se motiver, faut y aller, quoi. Faut tourner la poignée sans manger le goudron.
Philippe Coulon, on sent tout votre enthousiasme pour cette moto, votre passion encore. Un dernier mot, un coup de cœur. Tom Lutti en moto Grand Prix, un Suisse en moto GP. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel.
C'est très exceptionnel parce que je vous dis, une saison comme ça, ça se calcule en millions. Mais si Tom est arrivé là, c'est qu'il le méritait. C'est qu'il le méritait, il n'a pas acheté sa place.
Même s'il manque un petit peu de niaque.
Manque de niaque, Tom, mais il va s'y faire et on lui souhaite d'être dans les points dès le premier Grand Prix. Ça, c'est toujours, vous savez, comme dans tout dans la vie, hein, c'est la tête qui compte. Si on est bien dans la tête, si on se sent bien, tout va bien, dans n'importe quel truc. Je parle pas que de la moto, là. Mais si on est, c'est vrai que si vous arrivez au bureau le matin, aujourd'hui, j'ai pas envie de, ça va pas. Dans tous les trucs, faut être bien, dans la tronche, et je pense que tout va bien après. Faut pas trop qu'il se fixe des objectifs trop hauts, parce qu'après, c'est l'eczéma du goudron, et c'est pas bon pour la tête, quoi. Devant, ça va très très vite, hein. Les Marquez, les Rossi, ils sont tous là, ils sont tous affûtés, ils sont tous, un Marquez, c'est un funambule, Marquez, vous l'avez vu, on le voit souvent glisser d'avant, c'est plus un funambule qu'un pilote, mais ça fait plaisir, c'est très très beau pour l'image, parce que la moto, c'est un sport formidable, c'est une très très belle image, et c'est une passion pour beaucoup de gens, et ça fait plaisir.
Philippe Coulon, merci beaucoup. On se réjouit d'ores et déjà de suivre dès dimanche au Qatar Thomas Lutti en moto Grand Prix. De notre côté, Yannick, même si on a la niaque, on a l'envie, j'ai quand même comme le skimon qu'on n'irait pas très vite sur une moto. Hein.
Non.
Mais vous savez, tout s'apprend. Hein. Je loue des circuits et vous êtes les bienvenus si vous voulez faire quelques tours en moto. Une petite école, ça fait toujours du bien. Quoi.
On peut essayer ça. En attendant, on vous souhaite une très belle soirée et puis une bonne course. Donc, les débuts de Tom Lutti en moto Grand Prix, c'est ce dimanche sur le circuit du Qatar. Philippe Coulon, merci beaucoup d'être passé.
Merci beaucoup à vous, bon week-end.
Cap Sport, la rediff.